Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant le pardon. Nous arrivons à l'étude numéro 4. On commencera par se pardonner soi-même. Se pardonner soi-même. C'est pas évident. N'avez-vous jamais entendu des gens écrasés par un sentiment de culpabilité qui vous disent « Je crois sincèrement que Dieu m'a pardonné, mais je ne peux me pardonner moi-même. » N'est-ce pas tragique, chers amis? De telles paroles révèlent une profonde souffrance dans la vie de ces personnes. Beaucoup tiennent ce langage et se placent eux-mêmes dans un état de condamnation alors que Dieu leur a pardonné. Voyons dans cette étude de quelle est la racine de ce mal et le remède biblique. Les masses médias d'un pays étranger ont rapporté, il n'y a pas très longtemps, une surprenante découverte. Il y a eu un soldat japonais de la Deuxième Guerre mondiale qui vivait encore caché dans la jungle des Philippines, ignorant que la guerre était terminée. Durant toutes ces années, cet homme avait vécu dans la crainte et avait lutté pour chercher à survivre, alors qu'il aurait pu jouir des bienfaits de la paix. Beaucoup de chrétiens vivent aussi comme cela. Ils sont encore en guerre contre des sentiments de condamnation, d'indignité et de crainte, alors qu'ils sont libres. La croix de notre Seigneur Jésus, c'est vraiment quelque chose où il a déclaré qu'il avait lui tout fait pour notre libération. La guerre est donc terminée entre Dieu et nous. C'est Jésus qui nous a libérés. Il a fait la paix avec nous par le sang de Jésus. Dieu a fait la paix avec nous par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Colossiens chapitre 1, verset 20. Donc, puisque Dieu nous a pardonnés et que nous avons accepté son pardon, il nous demande non seulement de croire que nous sommes pardonnés, mais aussi de nous pardonner nous-mêmes. Vous êtes donc libres. Croyez-le et sortez de votre prison. L'apôtre Paul est une vivante illustration de cette vérité. Le Seigneur lui a beaucoup pardonné et lui-même a aussi dû apprendre à se pardonner à lui-même. S'il n'avait pas appris une fois pour toutes cette leçon, il aurait pu avoir le sentiment, chaque fois qu'il était persécuté ou même rejeté, d'être puni par Dieu pour tout ce qu'il avait fait aux chrétiens avant sa conversion. Oui, il avait fait des choses terribles, et normalement, on comprend qu'on pourrait se dire « jamais ». Dieu pourra me pardonner. Tous ces écrits auraient été imprégnés du sentiment paralysant de la pitié de soi et surtout de la culpabilité. Mais l'apôtre Paul a appris à vivre comme un homme réellement et entièrement pardonné. Il écrit « Car je suis le moindre des apôtres ». je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 9 et 10. Il a dit, « J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à tous ceux qui croiraient en lui, en Dieu, pour la vie éternelle. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul nous exhorte donc à suivre son exemple et à nous réjouir de notre plein pardon. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. La culpabilité est une force destructrice qui paralyse. Si Satan ne peut empêcher Dieu de nous pardonner, il réussit parfois, malheureusement, il réussit à nous empêcher de nous pardonner nous-mêmes. Son but est donc de nous empêcher de jouir pleinement de notre salut et de pouvoir être utilisés par Dieu. Si nous saisissons le pardon libérateur de Dieu, nous sommes à même de nous pardonner nous-mêmes. En effet, pourquoi me condamner encore quand Dieu ne me condamne plus? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14, nous en donne une image saisissante. Il, Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Le mot grec pour effacer signifie littéralement essuyer ou nettoyer. En comprenant ce mot, nous saisissons l'étonnante miséricorde de Dieu. L'encre utilisée du temps de l'apôtre Paul était essentiellement un mélange de suie et de gomme diluée, et c'était simplement dilué dans de l'eau. Cette encre ne contenait pas d'acide, voyez-vous, comme l'encre de nos jours, et restait donc à la surface du papier sans jamais l'attaquer. Elle pouvait durer longtemps, tout en conservant sa couleur. Parfois, un scribe, pour économiser, il utilisait un même parchemin plusieurs fois. En prenant une éponge, il pouvait tout effacer et le réutiliser comme s'il n'y avait jamais rien eu dessus. Voilà donc l'image que l'apôtre Paul utilise. Nos péchés n'ont pas seulement été annulés, mais ils ont été effacés, ne laissant plus aucune trace de notre passé. Alléluia. Un chrétien écrivait un jour à un pasteur pour lui dire « J'ai fait tant de mal et tant d'erreurs dans ma vie. J'ai demandé à Dieu et à toutes les personnes offensées de me pardonner. Mais comment puis-je me pardonner moi-même ?» Et le pasteur lui a répondu, c'est en croyant la sainte parole de Dieu qui affirme que quand Dieu pardonne, il oublie. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est ce qu'il a fait pour moi. Michée, chapitre 7, verset 19. Et aussi, il est dit, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés, dit Yahvé l'Éternel. » Ésaïe 43, verset 25. Lorsque on demande à un champion olympique quel était le secret de son succès, il répond « Le seul moyen de gagner une course, c'est d'oublier vos précédentes victoires qui vous rendraient orgueilleux et vos précédentes défaites qui vous rempliraient surtout de crainte. Chaque course est vraiment un nouveau départ. » Ces paroles nous rappellent celles de l'apôtre Paul quand il dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3 versets 13 et 14. Oublier ce qui est en arrière, cela englobe aussi nos erreurs, nos fautes et tout le mal que nous aurions pu faire aux autres. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que quelqu'un vive constamment sous le poids écrasant de la culpabilité. Lorsque nous nous agenouillons sincèrement devant Dieu dans la repentance, il nous pardonne. Si la culpabilité demeure, c'est que nous ne nous sommes pas pardonnés nous-mêmes. Jésus veut nous donner un nouveau départ chaque jour. Il renouvelle ses bontés pour nous chaque matin. Croyons-le et louons-le de tout notre cœur. Notre mission, chers amis, c'est de pardonner aux autres. Voyez-vous, dans le plan de Dieu, le message du pardon est destiné à changer l'humanité. Le sacrifice de Jésus à la croix a réconcilié l'homme avec Dieu. Aussitôt après, Jésus conféra à ses disciples le ministère de la réconciliation. Il leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Saint Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. C'était là le message confié à la première Église. L'apôtre Paul aussi l'annonçait partout où il allait. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oui, il n'a pas imputé quelque chose aux hommes. Il n'a jamais imputé aux hommes leur offense. Non, non, non. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Alors, nous sommes ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20. Ayant été pardonnés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons maintenant la responsabilité et le privilège d'apporter ce message de réconciliation à tous les hommes. En vue de préparer ses disciples à cette solennelle responsabilité, Jésus insista à maintes occasions sur la nécessité de se pardonner les uns les autres. Il n'a pas seulement enseigné sur le pardon, mais il a aussi vécu. Nous sommes donc appelés à suivre son exemple. Juste avant son ascension, il donna ses dernières recommandations à ses disciples. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Saint-Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Une des vérités les plus négligées de l'enseignement de Jésus est le message du pardon. Chers amis, nous allons considérer les quatre principaux messages de Jésus sur ce sujet vital. Premièrement, le pardon transforme nos prières. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom règne, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez, chers amis, aux hommes leurs offenses, eh bien, on a compris que notre Père Céleste vous pardonnera, nous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 9, jusqu'au verset 15. Le seul commentaire que Jésus fait sur la prière est d'insister sur la nécessité absolue du pardon. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit « Père, aide-nous à pardonner aux autres, comme tu nous as pardonné », mais plutôt « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Le message est très clair et direct. Dans cette prière que nous formulons souvent, avons-nous bien réalisé ce que nous disons ? Si nous n'avons pas pardonné, c'est comme si nous disions à Dieu, « Père, ne me pardonne pas. Pardonne-moi seulement dans la mesure où je pardonne aux autres. » Luttez-vous actuellement, je vous le demande, pour obtenir la victoire sur un péché particulier. Si tel est votre cas, vous ne pourrez obtenir de victoire tant que vous ne vous serez pas pardonné vous-même. Et pourquoi n'êtes-vous pas pardonné? Serait-ce parce que vous refusez, vous, de pardonner aux autres? Ça se peut. Lorsque nous commençons à pardonner, notre vie de prière change. C'est là que s'opère la première transformation. La prière devient une source de joie et de victoire. La puissance de Dieu sera libre d'agir en nous et au travers de nous. Nous ne serons plus la même personne. L'esprit est avant tout un esprit de pardon, seul fondement de toute vie de prière efficace. Deuxièmement, le pardon transforme nos relations avec les autres. Alors, l'apôtre Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsque il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Eh bien, Jésus lui a répondu ceci, écoutez bien, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. Donc, si nous prenons une journée de 16 heures d'activité, en pardonnant 490 fois, cela fait une moyenne de 30 fois par heure et une fois toutes les 2 minutes. Autrement dit, notre pardon doit donc être constant et illimité. Ça veut dire ça. Jésus veut donc nous dire très clairement que le pardon est la clé de nos relations avec notre prochain, car sans cela, toute communication ou communion devient impossible. Seul le pardon rétablira, transformera et améliorera nos relations. Nous n'avons donc pas, on peut dire, le choix. Le Seigneur nous demande de pardonner, pardonner et encore pardonner. Cette vérité essentielle de l'Évangile est-elle réellement mise en pratique aujourd'hui par vous, par moi? Qu'en est-il dans votre vie? La parabole du serviteur impitoyable nous aidera beaucoup à le concrétiser. Écoutez cela. Un certain roi découvrit qu'un de ses serviteurs lui devait 10 000 talents. C'était une somme astronomique. Elle correspondait environ à 10 millions d'euros actuels. Le serviteur n'avait bien sûr pas de quoi pour payer, pour rembourser. Il fut donc vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait. Alors il se prosterna devant le roi et dit, « Seigneur, aie pitié envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître le laissa aller et lui rendit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, une somme minime, disons environ 50 euros. Et il le saisit et l'étrangla en disant « Paye ce que tu me dois » et son compagnon le suppliait « Aie donc patience envers moi, et je te payerai. » Mais le premier ne voulait rien savoir, et il alla même le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Vous connaissez certainement la réaction sévère du maître à l'égard du méchant serviteur. Il lui a dit, « Moi, ton serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, très irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi qu'il est dit dans Saint Matthieu, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Saint Matthieu chapitre 18 verset 23 à 35. Nous comprendrons la parfaite équité du Maître dans la mesure où nous saisirons le rapport entre les deux dettes. La première somme de 10 millions représente donc la dette infiniment grande de l'homme par rapport à Dieu. La deuxième, cette deuxième dette de 50 euros, représente la dette infiniment petite entre l'homme et son prochain. Nous serons totalement transformés dans notre attitude devant Dieu et devant les hommes si nous mesurons la portée de ces deux dettes. Quel que soit le mal qu'on vous ait fait, cette dette ne s'élève que à 50 euros aux yeux de Dieu. Elle est donc infiniment petite par rapport à celle qui est infiniment beaucoup plus grande que vous devez, et je l'ai compris pour moi, que je devais à Dieu. Après avoir expérimenté un si grand pardon, comment pouvez-vous ne pas pardonner le peu de mal que les autres vous ont fait? Ce mal est si petit qu'il n'y a aucune excuse valable pour ne pas pardonner. Vous pouvez donc remettre cette dette de 50 euros, puisque Dieu vous en a remis une beaucoup plus grande. Agir autrement serait vraiment incompréhensible. Malheureusement, nous avons tendance à inverser les dettes de cette parabole. C'est pourquoi nous ne voulons pas pardonner. Nous considérons notre dette à l'égard de Dieu comme étant de 50 euros seulement, et celle de nos offenseurs comme s'élevant, par exemple, à 10 millions. Il est donc évident qu'un tel raisonnement ne nous rendra intransigeants à l'égard des hommes et propre juste, surtout à l'égard de Dieu. Si vous voulez rétablir vos relations avec votre prochain, vous devez changer votre optique pour vous voir tel que Dieu vous voit. Le Seigneur vous ayant accordé un pardon généreux et illimité, il attend que vous aussi vous accordiez aux autres un pardon généreux et sans limite. Troisièmement, le pardon transforme notre foi. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Saint Marcus, chapitre 11, versets 24 à 26. Nous nous demandons souvent si notre foi est assez grande pour que Dieu agisse, et nous prions pour que Dieu l'augmente. Mais le problème est plutôt une question d'obstacle qui empêche notre foi d'agir. Jésus nous dit dans Saint Matthieu, chapitre 17, verset 20, que si nous avions de la foi comme un grain de sénevé, une semence infiniment petite, nous dirions à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, et rien ne nous serait impossible. Il insiste donc sur la qualité de notre foi. Quel est donc l'obstacle qui empêche cette foi d'agir? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il s'agit du non-pardon. Le ressentiment paralysera votre foi, tandis que le pardon la libérera. Et c'est pourquoi nous devons constamment veiller à ne pas nourrir en nous la moindre rancune ou amertume contre qui que ce soit. Avez-vous quelque chose contre quelqu'un? Entretenez-vous un esprit de vengeance? Ne vous étonnez donc pas si votre foi et incapable d'agir. À la fin d'un message sur le pardon, une femme s'approcha du prédicateur pour rendre ce témoignage. Écoutez bien. « Pasteur, dit-elle, ces deux amis à mes côtés ont dû littéralement me porter pour venir à la réunion. Mais maintenant, je me sens capable à mon tour de les porter. Lorsque vous avez commencé à prêcher, j'ai compris pour la première fois de ma vie qu'il y avait dans mon cœur de l'amertume et de la haine contre Dieu et les hommes. Cette attitude m'a ruiné corps et âme. Or ce soir, j'ai réalisé la gravité de mon ressentiment et prié pour que je sois capable de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Plus je vidais mon cœur de toute cette amertume, plus mon corps s'est tout à coup fortifié. La fièvre m'a quitté et j'ai retrouvé ma sérénité. En l'espace d'une heure, cette femme expérimenta donc la guérison qu'elle avait tant recherchée pendant des années. Lorsque vous pardonnez, votre corps même réagit positivement. Gloire à Dieu. Et quatrièmement, le pardon transforme les autres. Toujours en rapport avec le pardon, nous lisons dans Saint Matthieu, chapitre 18, verset 18, que notre pardon a vraiment la puissance de délier les autres, oui, permettant ainsi à Dieu d'agir dans leur vie. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Saint Matthieu 18, verset 18. À la lumière de ce passage, les paroles de pardon, et rappelez-vous, ces paroles de pardon détiennent, je pourrais même dire, de ce saint et de Jésus, prennent donc une nouvelle signification. Alors que ce saint Étienne s'est écrié, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », un jeune homme qui s'appelait Saul de Tarse se trouvait là. Et cette prière de pardon délia Saul de sa condamnation sur la terre, et il fut aussi délié dans le ciel. Peu de temps après, le Seigneur se révéla à Saul sur le chemin de Damas, alors qu'il était en route pour persécuter les chrétiens. Cette prière d'Étienne changea donc totalement le cours de l'histoire du futur apôtre Paul. Voyons maintenant les paroles que Jésus prononça sur la croix. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Savez-vous ce qui se serait passé si Jésus n'avait pas prononcé ces paroles? Eh bien, le jugement serait venu sur toute l'humanité et nous aurions tous péri. Cette parole de pardon nous a donc libérés du jugement. Oui, cela vaut la peine de pardonner. Cependant, pardonner une personne ne signifie en aucun cas approuver toutes ses mauvaises actions, pas du tout. Étienne n'a pas dit « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne font rien de mal ». Il a seulement dit « Ne leur impute pas ce péché ». Non, pardonner ne veut pas dire « justifier le péché ». Notre pardon permet donc à Dieu d'agir dans nos vies. Il augmente notre foi et notre capacité d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. C'est un canal par lequel nous pouvons apporter la miséricorde de Dieu aux autres. Le jour où nous apprendrons à pardonner, nous verrons nos prières exaucées. Et c'est alors que nous serons vraiment prêts à annoncer son évangile et à accomplir les œuvres que Jésus a faites. Le pardon entre époux est beaucoup plus important que certains pensent. La Bible dit en Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants et vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, verset 32. La mission de se pardonner les uns les autres commence déjà dans la famille, car c'est là que la semence de l'amertume, du ressentiment et de la haine est, on peut dire, insidieusement semée, et les semer dans les cœurs, dès la plus tendre enfance déjà. La famille est en quelque sorte un centre d'apprentissage où Dieu nous exerce à nous pardonner les uns les autres. C'est là qu'il nous forme et nous transforme en vue de nous rendre en bénédiction pour l'Église et le monde. Savez-vous que la majorité des problèmes des Églises proviennent des problèmes de famille? Lorsque les problèmes de famille sont résolus, les problèmes d'Église le sont également. La personne ayant appris à pardonner dans sa famille sera aussi prête à pardonner dans l'Église. Le mari doit apprendre à pardonner à sa femme et la femme doit apprendre à pardonner à son mari. Pour certains, il leur est malheureusement plus facile de pardonner aux gens de l'extérieur que aux membres de leur propre famille. Les époux doivent savoir que sans l'esprit de pardon mutuel, il est impossible de vivre ensemble. Oh, que de foyers auraient pu être sauvés si seulement les époux avaient appris à se pardonner. Le pardon est en quelque sorte la respiration d'un couple. Sans lui, eh bien c'est l'asphyxie et la mort. Oui, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Si vous êtes prêt à pardonner à votre conjoint, vous vous trouvez cependant devant un dilemme, c'est la question. Qui de nous deux doit demander pardon le premier? Vous répondrez peut-être, voyons, mais c'est très simple. C'est celui qui a tort. Oui, d'accord, mais au fond, qui a tort? Car personne ne veut avoir tort. Même quand vous avez tort, vous voulez quand même avoir raison, avouez-le. Cela est bien trop souvent le cas. C'est ainsi que vous resterez sur vos positions, attendant toujours que l'autre fasse le premier pas et personne ne bouge, puisque chacun est convaincu qu'il a raison. Cela peut durer des jours, des mois, même des années. Comment donc sortir de cette impasse? Qui doit donc demander pardon le premier? La Sainte Bible est très claire et précise à ce sujet-là. C'est le mari. Prenons l'exemple du premier couple que Dieu a créé. Avez-vous remarqué à qui l'Éternel Dieu a fait ses premiers reproches lorsque Adam et Ève ont péché. L'Éternel s'est d'abord adressé à Adam, et pourtant c'était bien Ève qui avait péché la première. Logiquement, c'était donc à elle que Dieu aurait dû s'adresser. Ce ne fut pas du tout le cas. Pourquoi cela? Eh bien, aux yeux de Dieu, Adam était le premier responsable du couple. Ève avait aussi sa responsabilité, d'accord. Mais Adam était le premier responsable, et c'est pourquoi Dieu le reprend en premier. L'apôtre Paul a exactement la même pensée lorsqu'il nous dit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 23, « Le mari est le chef de la femme. » Voilà le verset préféré de beaucoup d'hommes. Toutefois, à cause d'une mauvaise interprétation de ce verset, une multitude de couples souffrent aujourd'hui. Certains maris pensent que ce verset veut dire qu'ils sont les patrons ou les commandants, ne donnant que des ordres à leur épouse. Certaines expressions courantes trahissent cette conception erronée. C'est moi qui commande ici. Tu n'as donc rien à dire. Ou obéis, un point, c'est tout. Et ces hommes sont étonnés d'avoir une femme rancunière, rebelle et dépressive, et qui aimerait plutôt s'en aller le plus vite possible. Que veut donc dire l'expression « le mari est le chef de la femme » ? Le mot « chef » a donc deux sens précis. Premièrement, un chef, c'est celui qui est responsable. Deuxièmement, un chef, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Donc, le mari doit savoir que Dieu le considère comme le premier responsable lorsque quelque chose ne va pas dans le foyer. Étant le principal responsable, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour régler tout problème avant le coucher du soleil, comme la sainte parole de Dieu le dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Il est dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » C'est donc chaque jour que les problèmes doivent être réglés. La désobéissance à ce principe biblique est certainement la source de beaucoup de maux dans la vie du couple. Et comment le mari doit-il assumer ses responsabilités? Est-ce dans un esprit autoritaire en disant « Regarde-moi un peu, c'est quand même moi le patron. » Eh bien non, absolument non. Mais il doit, le mari, donner l'exemple. Nous avons vu qu'un vrai chef est avant tout quelqu'un qui donne l'exemple. Si vous voulez que votre épouse vous demande pardon, vous devez d'abord apprendre à vous. Vous devez apprendre, vous, à lui demander pardon. Vous le savez comme moi qu'il y a des maris qui n'ont jamais demandé pardon à leur épouse et ils s'étonnent d'avoir de la peine à s'entendre avec elle. Un jour, une femme est venue voir un pasteur avec son mari. Ils sont venus ensemble. Et elle dit au pasteur en pleurant, « Voici 10 ans que nous sommes mariés et mon mari n'a jamais une seule fois demandé pardon. Jamais, jamais. C'est toujours moi qui dois le faire. » Et le pasteur s'est retourné vers son mari et lui a dit « Est-ce vrai ? N'avez-vous jamais demandé pardon à votre femme ?»« Non, 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 répondit celui-ci. » Et le pasteur reprit « Mais n'avez-vous donc jamais rien fait de mal ?»« Si, dit-il. » « Mais alors pourquoi n'avez-vous jamais demandé pardon à votre épouse ?»« Voyez-vous, mon père n'a jamais demandé pardon à ma mère et moi non plus. Moi non plus. Je ne vais pas le faire. Je ne vais jamais demander pardon. Non. Mon père n'a jamais demandé pardon, a-t-il répété, à ma mère. » Et moi, je fais donc la même chose. Je ne demande jamais pardon. Chers amis, cela ne se fait tout simplement pas. Et c'est donc étonnant qu'avec une telle conception du pardon, cet homme soit en train de détruire son foyer sans s'en rendre compte. Encore aujourd'hui, beaucoup de maris pensent et agissent malheureusement absolument de la même façon. Quelle est donc la raison profonde qui les pousse à une telle attitude? Eh bien, ils pensent, eux, qu'en demandant pardon à leur femme, ils perdront en quelque sorte leur autorité. Oh là là! Écoutez bien. Si vous n'avez jamais demandé pardon à votre femme, vous avez déjà perdu votre autorité. Et c'est pour cela que votre épouse se rebelle, car vous êtes un hypocrite et non pas un exemple. Si vous exigez d'elle, de votre femme, quelque chose que vous-même ne pratiquez jamais, vous êtes, et me semble-t-il, un hypocrite. Oui, le mari est le principal responsable. Il exerce son autorité en donnant l'exemple. Une autorité basée sur la responsabilité et l'exemple du mari sera toujours acceptée et appréciée par l'épouse. On peut avoir raison et quand même demander pardon, pourquoi pas? Voilà une attitude que seul le véritable amour inspirera. Prenons un exemple concret de tous les jours. Supposez que le mari ait raison et que la femme ait tort. Quelle sera l'attitude du mari dans une telle situation? Va-t-il profiter de cet avantage pour justifier sa position et attendre que sa femme fasse le premier pas? Dans de telles circonstances, le mari, il doit se rappeler qu'il a pu lui aussi faire de la peine à sa femme, peut-être sans même s'en rendre compte. Seul un esprit d'humilité et de pardon peut donc rétablir la situation. Avec tact et compassion, il pourra aborder son épouse en lui disant « Ma chérie, si j'ai fait quelque chose qui t'a fait de la peine, eh bien je t'en demande sincèrement pardon. » Que se passera-t-il alors? Un tel comportement, dépourvu de toute condamnation, touchera profondément son cœur. En général, l'épouse réagira de la manière suivante. « Non, 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 ce n'est pas toi qui dois me demander pardon, mais c'est moi. » Et c'est ainsi, par l'exemple du mari, que la paix se rétablira dans le foyer. Oh! Si tous les couples agissaient ainsi chaque jour, on verrait des merveilles dans les relations entre époux. après de telles paroles, les épouses pourraient avoir tendance à rejeter toute responsabilité sur leur mari. Il est vrai que le mari a une grande part de responsabilité, comme nous venons de le voir, mais l'épouse, elle ne doit pas oublier que devant Dieu, elle a, elle aussi, une responsabilité précise à l'égard de son mari. Quelle est donc cette responsabilité? Eh bien, le livre de la Genèse nous montre le plan de Dieu pour Ève. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Genèse chapitre 2, verset 18. Le mot hébreu pour aide veut dire « compléter, secourir et protéger ». L'épouse a donc pour mission non de condamner son mari, mais de l'aider, de le compléter, de le secourir, afin que le mari puisse accomplir fidèlement sa tâche, tant personnelle que familiale. Le mari a donc besoin de cette aide et doit la désirer, sinon l'épouse ne pourra se donner entièrement à lui pour l'aider. Si vous savez que votre mari a de la peine dans tel ou tel domaine, votre devoir n'est pas d'attendre, mais d'agir en l'aidant à remporter des victoires sur ses points faibles. Votre rôle n'est pas de condamner ou de critiquer, mais d'aider et de secourir. S'il a de la peine à vous demander pardon, pourquoi ne pas l'aider en demandant pardon vous-même? Pourquoi pas? Et c'est ainsi que vous le libérerez et que vous serez vraiment une aide et une source de bénédiction pour lui. Il l'appréciera énormément et vous en sera très reconnaissant, s'il est normal. Un exemple remarquable vous aidera à saisir cette précieuse vérité. Un pasteur était handicapé par un problème assez sérieux. C'était la colère. Il avait hérité cela de son père et même de son grand-père. Après son mariage, son problème s'était même aggravé, peut-être parce que une personne de plus était là pour en quelque sorte le condamner. Alors il avait prié et jeûné pour en être délivré tout de même, mais sans aucun succès. Un jour, Dieu parla à sa femme à ce sujet-là. Alors, s'approchant de son mari, elle lui dit, « Cher époux, chérie, pardonne-moi pour l'amertume que j'ai eue dans mon cœur pendant des années à cause de tes accès de colère. Dorénavant, il n'en sera plus jamais question. Je te pardonne tous les accès de colère. Et savez-vous, ce qui s'est passé, vous n'allez pas le croire. Cet homme fut instantanément libéré de sa colère. Plus jamais il n'a eu de problème dans ce domaine-là. Gloire au Seigneur. L'esprit de pardon mutuel enrichira et affermira l'amour entre les époux. Plus ils se pardonneront, plus ils s'aimeront. Le pardon des parents aux enfants, ça aussi, c'est une question difficile. Vous, les parents, n'exagérez pas vos enfants et surtout n'exaspérez pas vos enfants. Je répète pour que je ne fasse pas une faute de diction, puisque je suis je suis de langue allemande, et donc ça m'arrive de ne pas prononcer un mot comme je devrais, pour qu'il soit bien compris. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et je le prends dans une version allemande, mais rassurez-vous, ça ne contredit pas la version française. Il est dit, vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, traduit fidèlement, par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour avertir et pour reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Nous avons vu que le pardon commence dans la famille et que le mari doit être le premier à donner l'exemple. Le couple doit aussi savoir qu'il a la responsabilité devant Dieu de donner l'exemple du pardon à ses enfants. Il existe malheureusement des parents qui n'ont jamais demandé pardon à leurs enfants, pas une seule fois. Il n'est dès lors pas étonnant que beaucoup de parents se plaignent d'avoir des enfants rancuniers qui ne demandent jamais pardon. La triste réalité est que les enfants n'ont jamais eu d'exemple à la maison. N'oublions jamais qu'il vaut mieux leur donner un bon exemple que des milliers de conseils. Le Seigneur nous a donné des enfants pour faire non seulement leur éducation, mais aussi la nôtre. Ah oui, les enfants nous observent et comment, et ont un sens de la justice souvent très prononcé. Lorsque nous avons mal agi à leur égard, ils sont blessés, et à moins d'une réparation de notre part, leur cœur se remplira d'amertume et ils en souffriront, et tôt ou tard, ils se dresseront contre nous. La plupart des problèmes commenceront donc au foyer. C'est aux parents de comprendre que seul l'esprit de pardon gardera leur famille unie. L'absence de cet esprit engendrera tension, friction, rébellion et haine. En connaissance de cause, le Seigneur nous exhorte à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Il veut nous faire réaliser que nous ne pouvons vivre avec nos enfants un seul jour sans jamais pardonner. Au vrai sens du terme, pardonner, c'est réellement vivre, et vivre, c'est constamment pardonner. Comment les parents peuvent-ils exiger que leurs enfants viennent leur demander pardon alors qu'ils ne l'ont jamais fait eux-mêmes? Les enfants ressentent tout cela avec, on peut dire, hypocrisie de leurs parents et commenceront à manifester des signes de rébellion. L'hypocrisie des parents, ça c'est quelque chose que l'enfant ne peut pas supporter. Il est vrai que c'est humiliant de demander pardon à son enfant, mais c'est la seule attitude qui le touchera et le libérera de toute amertume. L'enfant respectera encore davantage ses parents et le dialogue sera maintenu entre eux. Combien de fois j'ai dû demander pardon à mes enfants de leur avoir fait de la peine par mes paroles ou par mes actes? C'est ce que a dit un ami pasteur qui me l'a confié. Voyez-vous, l'enfant est toujours prêt à accorder le pardon car il aime ses parents et il souffre d'une telle situation. Un père a raconté qu'un jour, son jeune fils venait d'avoir un accident qu'il aurait facilement pu éviter s'il avait fait un peu plus attention. Le jeune homme fut donc hospitalisé pour une opération, heureusement sans trop de gravité. Mais inquiet de la réaction de son père, le fils se confia à sa mère en disant « Papa va certainement me réprimander et j'ai bien peur. » Sa mère essaya de le rassurer. Plus tard dans la soirée, le père est venu pour voir son fils à l'hôpital. Il l'a salué par un tendre baiser. Eh bien, voyez-vous, cette manifestation d'amour à laquelle le fils ne s'attendait pas du tout le toucha au fond de son cœur. C'était plus qu'il ne pouvait espérer. En réalisant l'amour de son père, ce jeune homme éclata même en sanglots, c'est vrai. La réprimande dont il avait eu peur n'est jamais venue, jamais. Mais le pardon du père a rétabli totalement leur relation. Il est vrai que la correction a aussi sa place, parfois, dans certains cas. Mais nul ne peut contester l'efficacité d'une attitude de pardon et d'action libératrice qu'elle produit. Oh, que de relations brisées aujourd'hui entre parents et enfants. Les années passent, oh oui, et le mal s'aggrave. Les cœurs se durcissent, un mur se dresse, et le poison du ressentiment et de la haine envenime les cœurs. Mais tout cela peut changer. Parents, la clé du problème est encore, on peut dire, et reste encore, entre vos mains. Vous avez une responsabilité, que vous le croyez ou pas. Avez-vous fait votre part avant d'exiger que vos enfants fassent la leur? Vous êtes-vous demandé pourquoi vos enfants sont rebelles? Ils ont peut-être tort dans certains domaines, c'est vrai. Mais vous, êtes-vous absolument sans reproche? Si vous n'avez rien à vous reprocher, peut-être que eux ont quelque chose à vous reprocher dont vous n'êtes même pas conscient. Dieu peut encore faire des miracles dans votre foyer. Si vous êtes disposé à manifester un esprit d'humilité envers vos enfants. Un jour, une maman s'est trouvée en conflit avec son fils de 17 ans qui n'allait pas à l'école et qui ne travaillait plus. Elle avait l'habitude de lui faire constamment des reproches, de telle sorte que finalement, il s'était révolté. Au cours de l'une de ces discussions, le jeune homme se fâcha et s'écria « Arrête, arrête de toujours m'agacer, j'en ai vraiment assez, et bien maintenant je m'en vais. » Et le fils se rendit chez un copain qui lui aussi avait été rejeté par ses parents. Ce soir-là, la maman, découragée et très angoissée, on la comprend, se rendit à l'église. Et un hasard, mais c'est jamais un vrai hasard, on dit que c'est un hasard, un évangéliste parlait précisément des enfants rebelles et des problèmes dans les foyers. Et tout à coup, le serviteur de Dieu annonça qu'il y avait dans l'auditoire une maman qui venait d'avoir de très sérieuses difficultés avec son fils. Après la réunion, elle se présenta à l'évangéliste et lui raconta brièvement ce qui venait de se passer chez elle. Il lui dit alors, « Votre fils a besoin d'être accepté. Il a besoin d'être accepté beaucoup plus que d'être simplement toujours discipliné. » Accepté, hein? Mais il est en train de ruiner notre foyer, protesta la maman. Je sais, expliqua l'évangéliste. Il agit de cette façon, mais parce que ils se sont rejetés, privés d'affection et totalement incompris. Vous devez lui montrer votre amour. Ces paroles furent très difficiles à avaler, à accepter pour cette maman. Elle avait l'impression d'être une bonne mère et d'aimer ses enfants. Elle avait pourtant tout fait pour les enseigner dans les voies du Seigneur et elle avait cherché à rendre un bon témoignage. Et voilà que cet évangéliste lui demande d'aller s'excuser auprès de son fils pour sa mauvaise attitude. Elle avait de la peine à croire que l'évangéliste avait raison. Cependant, voyez-vous, le Seigneur lui montra qu'il en était bien ainsi. Il chercha aussitôt à revoir son fils pour se réconcilier avec lui. Et le trouva finalement chez son copain, mais dès que le jeune homme la vit, quand il l'a vu à nouveau, il s'est écrié « Voyons, veux-tu me laisser tranquille enfin ?» Elle lui promit et lui demanda sincèrement pardon pour son comportement incorrect envers lui. Sans exiger, même son retour à la maison, elle le laissa là. Or, à sa grande surprise, le jeune homme rentra le soir même et en l'espace d'une semaine, il avait entièrement livré sa vie au Seigneur et ne fut plus jamais le garçon révolté qu'il avait été auparavant. L'amour qu'il témoigne maintenant à ses parents les comble de joie. N'est-ce pas merveilleux cela? Dès que la maman a changé d'attitude, le fils a également changé d'attitude. Pensez-vous maintenant que quelque chose devrait aussi changer dans vos relations avec vos enfants? Avez-vous déjà considéré l'éventualité d'un changement dans votre propre vie ou attendez-vous toujours que ce soit vos enfants qui changent? Rappelez-vous qu'une attitude rigide ou trop rigide et trop dure va créer toujours des tensions, alors que si vous acceptez les enfants tels qu'ils sont, l'atmosphère de votre famille se détendra et tout le monde sera à l'aise. Un enfant accepté par ses parents se sentira en sécurité et sera donc beaucoup plus obéissant. Plus il se sentira accepté, moins il sera nécessaire de le discipliner. L'esprit de pardon dont les parents font preuve resserrera en quelque sorte les liens de la famille tout entière et permettra un dialogue franc et harmonieux entre parents et enfants. Amen. Chers amis, nous allons terminer ici par la prière. Prions. Dieu éternel, toi, le seul vrai Dieu, nous t'en prions, fais-nous mesurer toujours plus complètement les profondeurs de ton essence, éprouver toujours plus abondamment ta puissance de salut, chercher avec un zèle toujours accru et trouver ta vie éternelle par le saint nom de Jésus ton Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.